Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuites. La peine encourue est l'effacement.
Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez amené votre rédaction de la semaine prochaine, de la semaine dernière, hein. Je ramasse les copies. Nous en avons déjà parlé dans un précédent cours, Internet avait été conçu comme un réseau mondial. Peu importe la localisation d'une ressource, elle était disponible à travers une URI. Et dans URI, il y a universel. Le cloud arriva au milieu des années 2000 avec cette promesse fabuleuse. Vos données disponibles partout, répliquées à plusieurs endroits. Ainsi, en cas d'attaque nucléaire sur Amsterdam ou d'invasion de chars russes sur les Champs-Élysées, vos données pouvaient rester disponibles depuis les États-Unis ou la Chine, mais qui serait pour le coup le complice des chars russes. La promesse fut rapidement volée face aux coûts de maintenance et de synchronisation en temps réel de plusieurs VM dans le monde, laissant Amazon ou Google le luxe d'une telle architecture. Face à la mondialisation des réseaux de données, et profitant des promesses envolées du cloud, nos élites ont réagi et ont réaffirmé leur souveraineté sur les réseaux internationaux, et notamment ce fameux cloud. Ainsi, dans la lignée du plan calcul et des quotas de diffusion francophone, le gouvernement de l'époque imposa le cloud souverain. L'idée était simple, lumineuse. En stockant les données sur le territoire national, on pouvait y appliquer sa propre législation. Bon, en oubliant que les États-Unis appliquaient leur législation à tous les serveurs dans le monde de société américaine, le fameux Patriot Act. Mais on pouvait aussi et surtout protéger les VM, les machines virtuelles, des méchants pirates russes, en utilisant notre armée de cyberdéfense. Ainsi, des lois furent votées pour éviter toutes les catastrophes, incluant des cyberguerres qui, comme chacun le sait, font des cybermorts. Et comme le disait Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, qu'on tempère comme on voudra la souveraineté dans un État, nulle loi n'est capable d'empêcher un tyran d'abuser de l'autorité de son emploi. Oubliez ça, je vais avoir des ennuis. Où en étais-je ? Comme au début de chaque catastrophe, on trouve à la base une bonne idée. À l'origine, il s'agissait de stocker sur le territoire national les données de santé. Ainsi, il s'agissait d'éviter que des sociétés américaines viennent espionner nos alcooliques souverains biberonnés au quart de rouge et au pastis. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là et imposèrent également d'héberger les blogs sur le cloud souverain afin de faciliter le dépôt légal des blogs par les archives de la BNF. Oh, bien sûr, certains articles de blog disparaissaient aussi rapidement qu'un reportage d'investigation de Canal+ à propos du Crédit Mutuel. Puis ce fut le tour des boîtes mail d'être hébergés sur le cloud souverain, les ministres et les députés jurant la main sur le cœur que la confidentialité des emails serait respectée. Sauf en cas de terrorisme, sauf en cas de fraude fiscale, sauf. Le fait pour une société étrangère de détenir une donnée souveraine était sévèrement puni, d'une peine pouvant aller jusqu'au blocage administratif du site depuis notre chère patrie. Et petit à petit, l'État et le cloud souverain devinrent les seuls prestataires du stockage cloud, et en interdisant ainsi la copie des données, devint le seul propriétaire de ces données. En effet, comme le disait le grand penseur Benjamin Bayard, celui qui possède la donnée, c'est celui qui a le pouvoir de la détruire. Et pendant ce temps, un petit village d'irréductibles gaulois résistait encore et toujours au cloud souverain en s'hébergeant. Car comme disait Victor Hugo, au point de vue politique, il n'y a qu'un seul principe, la souveraineté de l'homme sur lui-même.